revenu est de passer de 80% à moins de 40%. C'est-à-dire qu'on diminue l'assiette de l'impôt. On privatise des activités parfaitement rentables. Vous ne comprendriez pas en France comment les autoroutes, qui ont été un investissement d'État, qui ont été amorties et qui sont extraordinairement rentables, sont vendues pour une bouchée de pain au privé. C'est-à-dire qu'on organise structurellement, si vous voulez, la pauvreté de l'État. Et évidemment, une fois que vous avez organisé la pauvreté structurelle de l'État, vous pouvez dire, bah, attendez, il faut fermer des maternités, il faut fermer des hôpitaux, puisque vous voyez bien, on n'a pas les moyens. Ce qui est beaucoup plus compliqué si vous dites les caisses sont pleines. Donc il y a une dimension profondément idéologique, si vous voulez, voilà, derrière cela, je crois, qui est véritablement importante et qui est liée à deux choses, qui est liée au rapport de force à l'intérieur de l'État. C'est-à-dire, je crois que c'est un élément très important, c'est que l'État, ce n'est pas une entité unifiée. Un policier et un médecin ne voient pas le monde de la même manière. Un inspecteur du ministère du budget, l'inspecteur des finances qui est au budget, n'a pas dans la tête le même sens du service public, de ce qu'est l'intérêt général, que par exemple un haut fonctionnaire du ministère de l'Éducation. Et on a vu dans les transformations et dans les luttes internes à l'intérieur de l'État, ceux qui ont pris le pouvoir, le dessus aujourd'hui, c'est véritablement le ministère du budget. C'est la direction du budget qui, elle, donne le là, si vous voulez, de ce que doit être l'État. Et vous savez comment ils appellent les autres ministères ? Ils appellent les autres ministères les ministères dépensiers.
Oui.
Ministères dépensiers, c'est-à-dire que c'est des gens qui ont les yeux rivés sur les grands équilibres macroéconomiques, et pour eux, c'est ça l'intérêt général. Ce à quoi, hein, quelqu'un du ministère de l'équipement peut vous dire non, l'intérêt général, c'est qu'on ait des routes qui soient en bon état et que les gens puissent circuler sur ces routes. Quelqu'un de l'éducation nationale, non, c'est qu'on élève, par exemple, le niveau scolaire des enfants des milieux populaires, etc. Et dans ces luttes à l'intérieur de l'État, c'est ces gens-là qui l'ont emporté, et ils l'ont emporté parce qu'ils ont trouvé une alliance inédite avec des hommes politiques nouveaux. Et je crois que là, c'est ce qui change, si vous voulez. La RCB, dont je vous ai parlé tout à l'heure dans les années 70, ça a été un échec patent parce qu'aucun homme politique ne s'est intéressé à cette question-là. Aujourd'hui, vous avez une fraction importante du monde politique et des élites politiques, de droite, mais aussi de gauche, et c'est important, qui, je dirais, ont une alliance, si vous voulez, un peu improbable, avec ces hauts fonctionnaires du budget, sur la reformulation, le reformatage, si vous voulez, de l'État.
Que si par exemple vous avez un accident, que vous avez besoin d'accéder à un bloc opératoire, le plus proche.
Il vaut mieux mourir. Il vaut mieux mourir d'abord. Ouais, je crois, ouais. Si on meurt, on a plus de chances d'aller au paradis que d'aller à l'hôpital. Je pense qu'il vaut mieux mourir si on a un accident. Hein ?
Il n'y a plus rien.
Si les petits collèges tombent, les plus gros suivront. Quand tous les collèges seront tombés, où iront les élèves ? Où iront-ils tous ?
Dans le privé.
Il a raison. Ce sont les gouvernements.
Le service public, on n'en parle plus du tout aujourd'hui. C'est le profit.
Nous avons perdu notre maternité, nos soins intensifs, notre bloc opératoire. Mais les choses se font très cachées. Et là, depuis quelque temps, c'est quand même un rouleau compresseur qui a attaqué le service public dans sa globalité.
Comme il y a beaucoup d'enfants qui vont rentrer en 6e dans 2 ans, ils parlent de la fermer aussi, notre école. Donc plus d'école, plus de boulangerie, plus rien.
Et c'est une autre raison d'être, c'est notre raison de vivre. Parce qu'il est bien évident que si on porte un coup au service public chez nous, c'est la vie qui s'en va. C'est vraiment la vie qui s'en va. C'est-à-dire, c'est l'impossibilité de rester une terre d'accueil.
Espérons bien qu'on maintiendra notre poste de vivrogue. Hein ? Parce qu'on tient quand même à notre canton, on tient à notre poste. Comment tenir à la gendarmerie, comment tenir à tous les services publics.
On ne demande pas le grand soir. Hein. On ne demande pas le grand soir, on ne demande pas des choses comme ça. Mais on demande de pouvoir vivre dans nos territoires, de pouvoir y vivre, y travailler, se soigner. On demande ça, on ne demande rien d'autre.
Laurent Bonelli, comment tout ça est programmé ? Parce que quand on est, comme on dit, sur le terrain, quand on est à Ambert, par exemple, dans le Puy-de-Dôme, on voit d'abord, on va supprimer à l'hôpital un service qu'on va considérer comme obsolète pour tel ou tel service. Il faudra aller à Clermont-Ferrand. Puis après, c'en est un autre. La maternité, on est obligé de la fermer, etc. C'est peu à peu. On a l'impression, je pense à la poste, les écoles, etc. Ça a l'air d'être programmé doucement, on a le temps pour pouvoir passer, pour pouvoir être non pas accepté, parce qu'il y a un refus profond, mais pour que ça ne fasse pas trop